Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours tentation. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. Les prix tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 20 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com.
France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Au début du mois de février 1978, le super-tanker Amoco Cadiz quittait le golfe Persique, le ventre plein de pétrole brut. Affrété par la société Amoco Transport, une filiale de la Standard Oil, il battait pavillon libérien et faisait route vers Rotterdam. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, fait escale à Las Palmas et passé Ouessant, il pénétrait le 16 mars dans les eaux de la Manche par une très mauvaise météo. Il s'échoua sur les récifs de Mengoulven, face à Porsal, commune de Ploudalmézo, au nord du Finistère. 220 000 tonnes de brut s'échappèrent de ses flancs, provoquant l'une des pires marées noires de l'histoire, qui souilla 400 km des côtes bretonnes. 15 ans après cette catastrophe, après de longs mois de procès qui aboutirent à un versement de dommages et intérêts, Sylvie Andreu revenait à Ploudalmézo, à la rencontre de ceux qui furent touchés de plein fouet par la marée noire.
Arrivé à Porsal, en fait, il faut pas oublier que c'était dans une période de tempête, donc il y avait un vent terrible, ce qui fait que sur la mer on ne voyait pas grand chose, et donc le bateau lui-même, l'Amoco, donc il était à 2 ou 3 000, on le voyait juste, mais à l'œil comme ça, c'était pas terrible, donc, parce que cette mer finalement elle est. D'une part, le vent, la tempête faisait qu'il n'y avait pas de visibilité. Et puis par ailleurs, cette mer, par l'effet de la sortie du fioul du pétrolier, elle s'est en quelque sorte alourdie. C'était devenu chaud. Alors dès qu'on approchait de la côte, on se rendait compte que c'était fabuleux. C'était du chocolat en fait qu'il y avait sur les rochers. Une espèce de chocolat, si je traduis en positif. 2 ou 3 jours après, on se disait que c'était autre chose. Hein. C'était plus le même mot. Mais... comme ça, à chaud, c'était une espèce de marée de chocolat qui arrivait à la côte. Moi, j'ai jamais vu à West France un événement couvert avec une telle vigueur, une telle ardeur, une telle intensité. Pour moi, c'est le plus grand événement, le plus grand fait divers, le plus grand fait de société que j'ai eu à traiter.
Un pays d'ici qui se souvient qu'il y a tout juste 15 ans, à quelques kilomètres d'ici à Porsal, par une nuit de grand vent de force 9 ou 10, survint la plus grande marée noire du siècle, avancée du pétrole sur 300 km de côte bretonne, et tous se souviennent ici d'avoir été réveillés par une effroyable odeur de pétrole et de l'état de la mer collée par le mazout et de sa couleur chocolat. Ici, dans ce Finistère lointain, les plaies ne sont pas toutes pansées, même si depuis longtemps il n'y a plus de traces de marée noire dans le paysage. Mais l'événement a été tellement considérable que pour beaucoup, il y a l'avant Amoco Cadiz et l'après Amoco, comme vous venez de l'entendre de la bouche de Paul Burel, qui à l'époque était correspondant de West France à Brest. Aujourd'hui, donc, souvenirs et récits de la marée noire. Demain, le feuilleton juridique avec l'Amérique en présence de M. Arzel. sénateur-maire de Ploudane-Mézeau, et jeudi, l'après-marée noire, avec des questions qui concernent toutes les côtes françaises, d'ailleurs sur les nouvelles réglementations en haute mer et sur les risques de marée noire, savoir d'ailleurs si tout risque de marée noire est écarté. Pour cette première émission, trois témoins, trois acteurs à leur manière de ce drame. Michel Glemaret, qui est océanographe, qui est biologiste et qui est enseignant à l'Université de Bretagne occidentale et qui est venu nous rejoindre puisqu'il est à Brest. Bernard Fichot, qui est conseiller en écologie à la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne. Et Yves Gladu, qui est cinéaste et sous-marin. Alors peut-être, première question d'ailleurs à Yves Gladu, qui a eu de cette catastrophe, de ce drame, une vision très particulière, parce que vous êtes cinéaste et plongeur, et vous n'avez pas hésité à plonger dans les eaux mazoutées, très vite.
Disons que la première vision de la Mococadis, ça a été par hélicoptère, le jour du naufrage, puisque j'étais correspondant d'un magazine de plongée, et à ce titre-là, j'ai pu donc survoler l'épave. Et ça n'est que quelques semaines après que j'ai pu plonger quand la tempête et le mauvais temps s'étaient calmés. Et donc j'ai effectivement été visiter cette épave, sans doute parmi les premiers.
Alors est-ce que pour vous, comme beaucoup dans ce pays, comme Paul Burel, que nous avons entendu en ouverture de cette émission, est-ce qu'il y a eu l'avant et l'après à Moko? Est-ce que pour vous c'est une rupture ou en tout cas un événement référence dans votre vie?
Ah oui, tout à fait, parce que c'est une épave, même pour un plongeur qui a l'habitude de fréquenter ces vieilles carcasses, qui est quand même la démesure dans tous les sens, la démesure sur le plan écologique, enfin je pense que M. Fichou en parlera, sur le plan de l'émotion aussi, je crois, ici en Bretagne, et le choc que ça a produit.
Bernard Fichou, dans votre vie, vous aussi, l'avant et l'après à Moko? Dans votre vie, dans votre travail,
dans mon travail, certainement. Dans ma vie, je pense qu'il y a eu effectivement l'avant à Moko, puisque je n'avais pas vu de marée noire avant. Et il y a eu le pendant à Moko, je dirais pour moi. Il a duré pendant les quelques années où j'ai travaillé sur l'affaire. Mais je ne sais pas si ça reste encore pour moi un phénomène important. J'y pense pas tous les jours à la Moko. Quoi. Ça a peut-être marqué quelque chose en moi, mais je sais pas comment.
Il s'agit aujourd'hui de s'en souvenir, en tout cas. Michel Glemaret, dans votre travail de scientifique, il y a eu l'avant et l'après à Moko?
Oui, bien sûr, parce qu'il y avait déjà eu quelques premières alertes, d'autres marées noires qui étaient arrivées avant. Et quand on est à la direction d'un laboratoire où on travaille sur le fonctionnement normal du système, quand arrive une telle catastrophe, bon, ça a été effectivement tout le système qui est mis à plat, et il faut essayer de reconstruire le système, et c'est ça qui a été suivi, c'est-à-dire que ça a supposé une réorientation de nos recherches, et bon, il est clair aussi que depuis, d'autres accidents sont arrivés, et la Moko reste la grande référence.
À nouveau, une très sérieuse menace de marée noire sur les côtes bretonnes. Le super pétrolier panaméen Moko Cadiz s'est échoué cette nuit à 3000 au large de Port Sal, dans le Nord Finistère. Le grand navire, qui porte 220 000 tonnes de brut, soit le double du Torrey Canyon en 67, s'est en partie couché sur les roches alors que la tempête de Norrois soufflait et que la mer est grosse. C'est après une avarie de gouvernail que le tanker s'est trouvé en difficulté et plusieurs remorqueurs envoyés sur les lieux n'ont pu intervenir efficacement. La marine nationale intervient, comme l'a dit Henri Vincent, le commandant Gillot de la préfecture maritime de Brest.
Pour l'instant, effectivement, c'est la marine nationale qui met les premiers moyens sur la zone en faisant appareiller un certain nombre de bateaux de Brest, ces bateaux étant chargés des produits dispersants, de craie. Une grande partie de l'équipage a été évacuée, 42 personnes sur 44. Seul le commandant et son premier lieutenant sont restés à bord. Comme cargaison, au dernier renseignement, il y a environ 220 000 tonnes de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient. Mais à la différence du Bolen, ce pétrole brut est beaucoup plus volatile. C'est pour cela d'ailleurs que les populations du Nord Finistère ont pu sentir très tôt les émanations de ce pétrole brut, car il est très volatile.
Éric Bescon, vous aviez quel âge au moment de la marée noire?
16 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Cette nuit-là, l'alerte devait être vers les 22h et 22h30. J'étais avec mon frère, on était en train de parler, on a entendu un gros bruit, c'était une voiture qui pilait devant la maison où on était, et une femme qui est sortie de la voiture en hurlant qu'il y avait un bateau en feu au large. Et on s'est donc précipité ici, sur le quai, c'est une môle, et effectivement on voyait en face, on voyait une espèce de lueur et des fusées rouges. On a vu une fusée rouge en tout cas. Après on est parti un peu plus loin sur la côte, et là bah, on a vu que c'était un pétrolier. C'était un immense pétrolier tapis sur les rochers et qui commençait à laisser échapper le pétrole. Et on se rendait compte parce qu'il y avait une légère bruine, il y avait beaucoup de vent, et quand on avalait cette bruine, on sentait que cette bruine avait... On pouvait goûter une sorte de pétrole, pour ainsi dire. Les embruns avaient déjà commencé à se changer en pétrole et ça commençait à recouvrir toute la côte.
Et votre premier geste à l'époque, ça a été...
De ne pas comprendre exactement de ce que ça pouvait être. C'est-à-dire, on n'avait vraiment pas l'idée que le pétrolier allait, laisser autant de pétrole s'échapper et que Port-Sal deviendrait la une de l'actualité le lendemain. On ne s'imaginait pas encore les conséquences de ce qui a été la marée du siècle, la marée noire du siècle.
Et Port-Sal est resté la une de l'actualité pendant
quelques mois, oui.
Pendant quelques
oui,
mois,
le port, ouais. Port-Sal, du jour au lendemain, s'est fait connaître... dans le monde entier. Des journalistes du monde entier sont venus et nous qui étions toujours un peu repliés sur nous-mêmes, on avait quand même été surpris. On a vu toutes sortes de gens venir de l'Europe entière, du monde entier, mais on a vu comme des gens, je vais prendre le cas d'un petit monsieur avec une grande barbe, une sorte de prêtre, une sorte d'illuminé qui est venu à Port-Sal, je ne sais comment, et qui était à genoux sur la cale un peu plus loin, en train de réciter des incantations incroyables. Autrement, il y avait le cas de ce Belge qui était venu en vélomoteur de Bruxelles, je crois. Enfin, vraiment, il y a eu des gens assez farfelus, particuliers, mais il y a eu énormément de gens intéressants et formidables.
Éric Bescon, ici, c'est la pointe avancée de Port-Sal.
Oui.
C'est vraiment le lieu historique de la marée noire.
Le lieu historique, oui. Dans la mesure où le bateau s'est échoué sur les roches de Port-Sal, c'est là où tout a commencé. C'est là où tous les politiques sont venus. C'est là où tous les gens qui se sont intéressés à cette catastrophe viennent, toujours. Parce que de là, bon, vous voyez, on voit tout le port. Vous voyez l'ancre qui est là-bas. Le bout de l'ancre donne l'endroit exact du crash.
Et vous l'avez vu disparaître?
Bon, on a vu les hélicoptères lâcher, je ne sais même plus si c'était des hélicoptères ou des avions, lâcher des grenades pour exploser le reste des cuves qui n'avaient pas été percées. Mais je ne me souviens pas avoir vu la Moco disparaître complètement, non. Peut-être une nuit lors d'une tempête, Dieu sait s'il y en a eu.
Éric Bescon, nous sommes à proximité de l'ancre de la Moco. Est-ce que c'est un endroit du souvenir? Est-ce que c'est un endroit où les gens de la région viennent se recueillir?
Les gens de la région viennent se recueillir? Non, je ne pense pas. Mais les gens qui passent à Port-Sal viennent tous. L'ancre de la Moco est devenue le passage obligatoire maintenant des touristes, que je mettrai entre guillemets, quoi. Des gens qui veulent se renseigner sur la beauté du site et sur les risques de la modernité. Ah, il faut avoir vu, je crois, peut-être entre 30 et 60 cm de pétrole à marée basse, voir les bateaux qui n'ont pas de quilles rester droits, figés dans le pétrole, et surtout voir les goélands, les oiseaux marcher, s'engluer, et s'enfoncer et disparaître dans le pétrole. Et c'est un spectacle qui est pratiquement apocalyptique.
Alors aujourd'hui, la vie a repris, bien sûr. Mais est-ce que la population de Port-Sal a encore en mémoire très, très profondément
Oh, bien sûr, parce que 1978, pour pratiquement l'essentiel de la population de Port-Sal, est devenue une date référence. Alors quand on parle de quelqu'un qui a disparu, d'un événement qui s'est produit, on dit souvent avant la Moco ou après la Moco. Mais les gens n'en parlent peut-être pas parce qu'il y a une sorte de pudeur. Bon, les gens ne viennent, je pense, pas trop sur l'ancre ici parce qu'il y a également cette pudeur. Et quand on habite une région aussi belle qu'ici, que la Bretagne, je crois qu'on ne peut être que absolument horrifié et déçu par ce qui s'est passé. Et on n'a peut-être pas trop envie de se rappeler tout ça. C'est de la pudeur et tout simplement.
C'était le témoignage relativement pudique d'ailleurs d'Éric Bescon qui tient un bar de marins et un bar pour touristes à Port-Salle qui, je dois le dire, est un des endroits les plus jolis qu'on puisse découvrir dans cette partie du Nord Finistère. Et bon, pudeur ou impudeur, c'est vrai que ça n'est pas commode de remuer tant de pétrole et tant de mazout. Yves Liadu, vous avez plongé, vous êtes cinéaste, donc vous avez, je crois qu'en mémoire, là, Bernard Fichot et Michel Guilmarec ont en mémoire les photos tout à fait impressionnantes que vous avez faites de la marée noire. Alors c'est vrai que nous, on se souvient du moment où la proue du bateau était dressée, et elle ressemblait à une sorte de gueule de requin qui était immobilisée dans la mer.
Oui, tout à fait. Et cette immense proue, d'ailleurs, reste un mystère aujourd'hui, parce que elle a disparu totalement. Et même en plongée, nous l'avons cherchée avec l'aide de pêcheurs, et elle a totalement disparu. C'est-à-dire qu'elle a été emportée une nuit, elle s'est retournée vraisemblablement, elle a été emportée par les courants, et on ne sait pas encore où. Et personne ne l'a jamais trouvée, et même les services hydrographiques de la marine ignorent totalement l'endroit où elle se trouve.
Et à quelle profondeur est la Moko aujourd'hui ?
L'arrière de la Moko se trouve par 30 mètres de fond. Et bon, c'est une épave qui est très, très, très abîmée et qui est pratiquement un amas de tôle aujourd'hui, quoi.
Alors, ce que nous entendons, c'est une bande tout à fait exceptionnelle que vous nous avez apportée, j'allais dire en exclusivité. C'est la première fois à la radio, c'est d'ailleurs la première fois au monde que l'on entend le son et les plaintes de la Moko que vous avez enregistrées, emprisonnées dans le fond des mers.
Voilà, ce son, vous pouvez l'entendre dès que vous immergez la tête sous l'eau. Et j'ai eu l'idée, suite à mes premières plongées qui étaient très angoissantes et où les bruits étaient vraiment cataclysmiques, j'avais envisagé d'enregistrer ces bruits. Et donc j'ai plongé des hydrophones au-dessus de l'épave, et voilà donc ce qu'on peut entendre.
Alors qu'est-ce qu'il y a à voir autour de la Moko ? Ça, on demandera d'ailleurs à Michel Gliramec et à Bernard Fichot de compléter, parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles. Certains me disent c'est le silence de la mer, c'est la mort autour de la Moko, et d'autres disent c'est un véritable vivier, c'est un endroit où se reproduisent les crustacés de la région.
Ça n'est pas un vivier. L'épave a été très très vite colonisée par les algues. Mais justement, j'ai entendu aussi ces bruits comme quoi il y avait énormément de crustacés, de poissons. On trouve quelques crustacés et quelques poissons, mais les poissons n'habitent pas vraiment l'épave. Ils ne se sont pas installés du tout à l'intérieur. Je pense qu'il y a des raisons d'ailleurs à ça. Le bruit de l'épave n'est sans doute pas étranger à ce manque de colonisation par les poissons.
Bernard Fichot, vous étiez tout jeune étudiant au moment de la Moko. Vous étiez d'ailleurs, je crois, l'élève de Michel Guilmarec.
Non, j'étais en géographie, mais j'allais très souvent dans leur laboratoire parce que c'est là-bas que tout se passait. Ils étaient sans arrêt à ramener des bestioles vivantes, mortes, à les découper en morceaux, à regarder qu'est-ce qu'elles avaient, quels étaient les taux de survie, etc. Donc moi, je m'étais précipité dans leur laboratoire pour être au fait de l'actualité.
Alors, on peut dire que vous avez fait vos classes sur les plages mazoutées de la Moko Cadiz.
Ouais, parce qu'à ce moment-là, je faisais des études de géographie de la mer et par l'intermédiaire donc du laboratoire de Michel Guilmarec, je me suis inscrit. Ils avaient mis en place des équipes d'étudiants qui allaient collecter de la faune un peu partout sur le littoral, et moi je me suis tout simplement inscrit dans certaines de ces équipes pour participer aux opérations de collecte, et le soir je restais traîné dans les labos pour savoir un peu ce à quoi ça servait, les conclusions qu'ils pouvaient en tirer, quoi.
Alors qu'est-ce que vous avez cueilli sur ces plages? Et d'une certaine façon, on peut dire que vous avez appris le pire.
Ouais.
D'entrée,
oui, c'était pas très joyeux. Encore que dans le détail, on allait dans certains secteurs qui, à certains moments, étaient épargnés par les nappes. Hein. Sur certains secteurs de plage, on arrivait, il n'y avait absolument pas de pétrole. Bon, la semaine d'après, il pouvait très bien y avoir du pétrole dessus. Mais c'est vrai que souvent, c'était assez épouvantable. Surtout qu'à cette époque-là, je me rappelle que la plupart des scientifiques et la plupart des gens, mais scientifiques compris, avait dans l'idée qu'une pollution du type Amoco, 220 000 tonnes sur 300 km de long dans des abers, etc., ça pouvait durer ad vitam aeternam. Donc on avait en plus cette peur au ventre quand on voyait les plages, l'état des plages, on se disait c'est pas possible, si ça dure 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais on n'a plus qu'à se barrer, quoi. Mmh. C'était un petit peu l'impression qu'on avait. Les scientifiques, moi compris, parce qu'après j'ai fait la même erreur, on se trompait l'air de rien un petit peu. On croyait que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça ne l'a fait, en fait.
Et en fait, les impacts, les études d'impact ont prouvé qu'il y avait un facteur de durabilité qui était bien moindre que celui que vous craigniez. Michel Guilmarec, vous étiez enseignant, vous étiez professeur donc, oui. À l'université de Bretagne occidentale.
Oui, bien sûr.
Et vous m'avez dit avoir assisté à une véritable insurrection de la part à la fois des étudiants, des lycéens et des bénévoles bretons au moment de la marée noire.
Oui, parce que au-delà donc de cet incident, bien sûr, c'est l'émotion. C'est l'émotion partout, on voit les images, mais en fait, il y a l'émotion aussi, ce bruit tout à fait particulier qu'on a. On n'a pas souvent parlé du bruit lui-même, le bruit de la vague qui arrive, et c'est un bruit métallique tout à fait particulier, si bien que nous-mêmes ayant déjà vécu une ou deux marées noires avant, comme tous les vieux combattants, on aime toujours raconter nos guerres précédentes, et on avait quand même fait aussi celle du Torrey Canyon, et on avait quand même une idée de ce qu'il fallait faire, et déjà dès le premier jour, mes positions très fermes à la préfecture maritime concernant l'interdiction d'utiliser les fameux détergents de l'époque, qui n'étaient pas tout à fait les dispersants d'aujourd'hui, bon, on faisait qu'effectivement, en tant que breton, on s'exprimait en tapant un peu sur la table, et ça très vite. Bon, pourquoi ? Parce que l'émotion était très forte. Quand je suis arrivé dans mon labo le matin, il n'y avait déjà plus personne, tout le monde était à courir les plages. Et j'ai dit non, attention, on va faire du travail scientifique, mais on avait beau être une vingtaine de personnes, ça ne suffisait pas, c'est ce qu'on avait vécu pour le Torrey Canyon. Et là, très vite, on a vu cette émotion de ce monde étudiant dans lequel on vivait. Et donc les universitaires, on a, par rapport à d'autres instituts qui, eux, étaient quand même un peu plus contrôlés par le pouvoir politique de l'époque, nous, on avait la possibilité de canaliser cette émotion, et on s'est dit cette émotion très forte, ces défilés.
Vous avez été chef de troupe à votre façon.
Oh, pas tout seul. Bon, on avait quand même, disons, une équipe, disons, de coordination de l'ensemble de mon laboratoire. Puis j'étais aussi directeur d'un institut qui existe toujours, là où il y avait quand même une centaine de personnes. Mais c'est essentiellement le fait de pouvoir faire travailler 600 étudiants pour la même journée. C'est ça qu'il a fallu faire au point de vue intendant. Si bien que si vous me demandez moi-même si j'ai vu le pétrole, je ne l'ai pas vu car j'étais dans mon bureau à œuvrer avec mon téléphone, si ce n'est 3 ou 4 téléphones, et que pratiquement je n'ai pas été sur le terrain. Moi, c'est beaucoup plus tard que je suis retourné sur le terrain. Là, on n'avait pas le temps. On travaillait jour et nuit avec son téléphone.
Alors, Bernard Fichot, qu'est-ce que vous avez ramené quand même les premiers jours dans vos seaux, ou en tout cas dans vos musettes au laboratoire de Monsieur Guilmarec?
Je me rappelle qu'on cherchait, à vrai dire, on récoltait ce qui était sur les plages, c'est-à-dire les bigorneaux, les bestioles de ce genre-là qu'on trouvait sur les rochers, sous le Guémon, etc. Et aussi dans certains secteurs, on creusait les plages sur la base de cadras d'un mètre carré. On tamisait le sédiment, sable ou autre chose, et toutes les bestioles qui étaient dedans, on les ramenait au laboratoire. Donc c'était essentiellement, c'était pas quelque chose. Comment dire, à la télé, ça n'aurait pas rendu, quoi. On ramenait pas d'oiseaux mazoutés, de poissons qui vomissaient le pétrole, on ramenait des vers.
Vous aviez un travail plus discret, c'est ce que vous voulez dire.
En quelque sorte,
en tout cas, moins spectaculaire que ce que les photos de l'époque avec les cormorans mazoutés ont pu quand même multiplier absolument dans les magazines du monde entier.
Voilà, ouais.
Et vous n'étiez pas gêné par la présence justement des journalistes, des bénévoles, des. Monsieur Guilmarec me disait qu'à un moment, au bout de quelques jours, il y avait tellement de sèche-cheveux, je veux dire, les Français des quatre coins de l'Hexagone proposaient des sèche-cheveux et vous ne saviez plus quoi en faire.
Oui, parce qu'en fait, l'émotion, à chaque fois qu'il y avait un cormoran mazouté, effectivement, tout le monde y allait de son petit chèque et les fonds arrivaient. Et les fonds arrivaient pour quoi faire? On ne savait pas quoi faire, parce que devant tous ces oiseaux mazoutés qui essayaient de survivre, on savait très bien, et ceux qui étaient dans les cliniques de nettoyage savaient bien qu'ils faisaient un travail, il fallait le faire vis-à-vis des populations, mais on savait très bien que c'était sans avenir pour ces pauvres oiseaux. Par contre, on a utilisé en fait cet argent qui est arrivé au titre des oiseaux mazoutés pour faire un véritable travail scientifique. Parce que ça, on n'avait pas d'argent pour faire ce travail scientifique à l'époque.
Où est-ce que vous étiez dans la nuit du 16 au 17 mars 1978?
Ben moi, j'étais tranquillement chez moi et puis courant dans la nuit, je me suis levé parce que j'ai été réveillé un peu comme tout le monde par une odeur qui prenait à la gorge. Et le premier réflexe a été de descendre dans la cuisine, voir si le gaz était fermé. Mais comme tout était fermé, il n'y avait pas de problème. Je suis remonté chez moi dans ma chambre. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer et sans savoir que l'odeur venait du large. Et puis ensuite, vers 6 heures du matin, mon père, qui à l'époque était président du syndicat des Abers, qui avait été averti par la préfecture maritime de la catastrophe, m'a informé alors qu'il y avait un pétrolier qui s'était scratché à quelques kilomètres de là. On a tout compris tout de suite. Hein. Et tout a basculé parce qu'en fait, on s'est dit, c'est pas possible. On sait ce que contenait quand même un pétrolier. Donc la première pensée, ça a été de dire que tout était complètement foutu. Et puis on a attendu le matin, les journaux, et puis on a vécu une matinée un peu épouvantable parce qu'on cherchait le pétrole. Le pétrole, bien évidemment, on ne l'a pas vu parce que nous, on était à peu près à 5-6 km du pétrolier. Et à cette époque, si je ne m'abuse, il y avait une morto, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de courant. Donc le pétrole, nous, on ne l'a pas vu tout de suite. Le pétrole est rentré dans la mer après, quand il y a eu la marée. Mais alors, là, ça a été pire, parce que la mer a fait plutôt office d'entonnoir. Et c'est rentré... des milliers de tonnes sont rentrées dans la mer. Benoît, plus précisément que la mer Braque. Hein. Alors le pétrole, nous, on l'a vu que... Donc 4-5 jours après. Entre-temps, il a fallu réfléchir assez vite. Les huîtres, on a essayé de sauver le maximum en changeant de place déjà. On est parti en rade de Brest pour. On a loué un établissement pour continuer à garder le contact avec la clientèle. Mais la clientèle, au bout de quelques jours, de toute façon, ne voulait plus entendre parler de nos huîtres. Hein. Puis à partir de là, on a survécu pendant des mois et des mois.
Alors, monsieur Goudotte, comment est-ce que vous avez été prévenu de cette marée noire ?
C'était un matin, donc le matin, le lendemain donc, de l'échouage, parce que donc, le bateau s'est échoué la nuit, le soir. Et le lendemain matin, c'est mon marailleur de Brest qui m'a téléphoné pour me signaler ça. On m'a posé des questions, alors je suis tombé des nues, je ne savais pas, on ne savait pas du tout, hein, puisque donc ici on a le large qui est masqué par les îles et on ne voit pas donc ce qui s'est passé. Et en me disant donc qu'il y avait un pétrolier de 240 000 tonnes qui s'était échoué par salle. Alors ma réaction était de lui demander s'il était vide ou plein, quoi. Alors, il me dit malheureusement il est plein. Alors on s'est débrouillé, on est allé là-bas sur place et en arrivant vers 8h30, 9h du matin déjà, tout était donc sur la côte déjà, quoi, hein, bon, bah, tout se déversait, quoi, épais, gluant, une image irréaliste, quoi, hein, on ne pensait jamais que ça aurait pu arriver. Et on s'est mis en contact donc, avec les collègues parce que certains bateaux avaient du matériel dehors, ce n'était pas mon cas. Puisque donc il y avait une mauvaise météo, j'avais gardé mon matériel sur le quai. Et donc les bateaux qui avaient du matériel, bon, ils sont sortis quand même, tâchés de les récupérer malgré le mauvais temps.
Dites-moi, le pétrole a tout envahi, comment ça s'est passé
Ouais, progressivement, quoi, parce que bon, on avait un espoir au départ, quand le bateau s'était échoué, il y avait des fuites, mais on avait quand même un certain espoir de pouvoir pomper ce qu'il y avait dedans. Donc les pompes devaient venir d'Amérique, elles ont eu du retard, et puis il y avait une météo qui n'aurait rien permis, parce que la météo vraiment était très mauvaise, et on n'aurait pas pu approcher du tout le bateau.
Donc sentiment d'impuissance alors.
Impuissance, oui. Mmh. On se trouvait désarmé devant un tel catastrophe, devant une telle catastrophe.
Mmh. On a des idées de vengeance à ce moment-là.
À ce moment-là, oui, tout à fait. Je pense que nous avons donc été réunis à Brest à l'époque. Nous avons défilé dans les rues pour protester. On a donc été jusqu'à la sous-préfecture. Et on avait surtout mis en cause à l'époque un peu le temps de transaction qu'il y avait eu entre le remorqueur allemand et le pétrolier. On s'était mis dans la tête que bon, c'était du temps perdu et que si ce remorqueur-là, sans tenir compte des transactions entre son armement et puis l'armement du pétrolier, aurait pris le bateau en remorque, à ce moment-là, la catastrophe aurait pu éviter. Je crois qu'après, cette position a été modifiée parce qu'il y a eu quand même une chronologie exacte de la transaction et puis enfin de la prise de remorque et tout ça. Bon, je crois que le remorqueur a été mis hors de cause. Mais sur au départ, pour nous, le responsable, c'était donc le remorqueur. Donc, on avait proposé à l'époque, je me rappelle, de descendre au port de commerce puisque ce remorqueur a été un quai. Et bon, on aurait fait une action quelconque, quoi, mais une action de vengeance, ouais, tout à fait.
Yves Gladue, autour de cette table, tout le monde vous interroge, tout le monde a envie de savoir comment est-ce que, avec vos micros sous-marins, vous vous êtes pris quand même pour enregistrer la MOCO.
Bien, ces bruits se produisent régulièrement lorsque la mer est un peu formée, lorsqu'elle de la houle, et la carcasse est travers à cette houle, et elle est donc promenée sur le fond par la mer. Et les tôles, qui sont verticales, frotte contre les rochers qui sont sur le fond. Et c'est ce qui occasionne ces bruits, ces grincements. Mais encore une fois, lors du naufrage, quelques jours après le naufrage, ces bruits étaient encore beaucoup plus impressionnants. Et c'était une véritable cacophonie qu'il y avait au fond. Et c'était vraiment très, très angoissant pour la plongée.
Alors, on m'a dit que longtemps, le château du bateau, enfin du paquebot, avait été visible. D'ailleurs, Monsieur Arzel, le maire de Ploudal, est d'accord avec ce que je dis. Que longtemps, donc, le château avait été visible de la grève. Et puis un jour, il a disparu. Quoi. Un jour, la MOCO s'est profondément enfoncée quand même dans les fonds. Et puis maintenant, bon, il dort.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a une partie qui s'est enfoncée, le château effectivement, et surtout, il a été, je pense, décaloté par la mer, et il s'est retrouvé à côté de l'épave, sur le fond, comme l'étrave aussi, qui a été emportée une nuit de tempête. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est de voir au fond le mouvement de l'épave qui se retourne sur elle-même et qui s'écrase. Autrefois, on voyait sous la coque l'hélice et le gouvernail. Et maintenant, ça a disparu parce que l'épave s'est écroulée et s'est renversée dessus sur elle-même. Quoi.
Et votre film a fait le tour du monde, j'imagine ?
Ben, disons que j'ai fait plusieurs fois des images pour l'information, pour des chaînes de télévision, mais aussi j'ai eu l'occasion de faire des courts-métrages pour illustrer les légendes autour qui ont été créées autour de cette histoire de la MOCO Cadiz.
Qu'est-ce que vous entendez par légende ?
Ah, y a une légende de la mer qui est née de la mer, donc qui est très optimiste d'ailleurs, où les animaux comme les cormorans visitent l'épave en plongée et après se transforment en animaux comme les dauphins. Enfin, c'est...
Alors, est-ce que les scientifiques présents autour de cette table sont, je veux dire, croient aux légendes?
Mais bien sûr.
En Bretagne surtout, non?
Ah ben, on est complètement imprégnés, il n'y a pas de problème.
Alors, Michel Guémarec, plus sérieusement, les espèces qui ont le plus souffert?
Ben, sur le plan général, Bernard l'a dit tout à l'heure, on a été...
juste parlé des bigorneaux.
Oui, mais disons que c'est un... Les bigorneaux ont été, à l'époque, effectivement, un des meilleurs témoins pour essayer de montrer ce qui se passait. Bon, lorsque l'on parle de l'ensemble d'un écosystème, bon, c'est très compliqué à décrire. On est obligé donc d'avoir des espèces, effectivement, des espèces leaders, des espèces pilotes qui vont essayer de nous dire un petit peu ce qui se passe. Et on est obligé de taper au milieu du système pour essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Mais bien entendu, lorsque l'on se retrouve après devant un juge à Chicago, on est obligé de penser aux espèces qui ne sont pas forcément les plus belles et les plus jolies en termes de zoologie, comme nous sommes des zoologistes. On peut aussi se battre sur une espèce par son esthétisme. Mais là, bien sûr, on s'est retrouvé tout de suite avec des problèmes d'économie, et il s'agissait avant tout de défendre les espèces qui avaient un poids économique.
Alors, Monsieur Guémarec, là, vous anticipez un peu, et je le comprends sur l'émission de demain, où on va longuement raconter le feuilleton juridique avec l'Amérique. Oui. Mais c'est vrai, vous me l'avez dit, que vous avez plaidé aux États-Unis, donc à Chicago, le dossier des dormeurs.
Ben, pas...
Alors, je trouve extraordinaire d'avoir quand même pris l'avion, d'avoir fait 10 000 kilomètres, et puis d'avoir travaillé, j'imagine, sur très, très dur pour défendre les dormeurs.
Alors, c'est pas seulement les dormeurs, et c'est pas les dormeurs qu'on défendait, les pauvres dormeurs qui étaient morts. C'était surtout pour défendre le pays breton, et ce que l'on devait défendre, c'est la partie, disons, la partie de l'iceberg que l'on voit, c'est-à-dire c'est ce qu'exploitent les marins pêcheurs. Et dans cette affaire-là, bien entendu, c'est les marins pêcheurs qui étaient les premiers sinistrés, ceux qui auront toujours été le plus mal indemnisés. Alors moi, je plaidais l'écologie au sens le plus théorique en termes de fonctionnement de systèmes qui sont atteints, de savoir un petit peu quelle est la sensibilité de certaines parties du système par rapport à d'autres. Mais la meilleure façon de faire comprendre à un juge, effectivement, que le système était touché, c'était de lui dire que ben, les Bretons et tous les touristes qui viennent en Bretagne, ils aiment bien avoir des dormeurs dans leur assiette au restaurant. Et donc là, on avait quand même 3 générations de dormeurs. Et partant de là, 3 générations, on peut aussi... on fait référence à nos guerres, effectivement. Une guerre 14 avait aussi... tuer une génération d'hommes valides, d'hommes de 20 ans, et là aussi on tuait 3 générations de jeunes tourteaux valides qui avaient un avenir.
Et... Comparaison est osée quand même, non?
Non. Il faut essayer toujours de se référer à ce que l'homme connaît. Et bon, quand je dis le dormeur, je pourrais employer aussi un mot latin pour dire que ce dormeur-là n'est pas tout à fait le même dormeur que sur les côtes américaines, parce que devant... la justice américaine, et il fallait plaider des choses aussi, des choses assez simples. Et quand vous me dites, j'ai pris l'avion, j'ai pas fait simplement, c'était pas simplement prendre l'avion, c'est une aventure qui a duré des années. C'est que on a le plus souffert. Nous, les témoins, c'est la préparation à Paris, où il a fallu, passer à la moulinette.
Vous revenez demain, parce que c'est vraiment l'émission de demain. J'aimerais, entre Bernard Fichot et Michel Guémarec, qu'on me dise à peu près quel a été le volume d'animaux morts qui ont été relevés sur ces plages.
Alors ça, c'était ce que l'on voulait faire, nous les scientifiques, dès le premier jour, avant même que des fonds arrivent des ministères. Et bien sûr, les ministères ne voulaient pas entendre parler à l'époque du moindre impact écologique. Et c'est là où je peux reprendre la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les fonds qui arrivaient au titre des oiseaux que l'on a récupérés pour faire du véritable travail scientifique.
Les oiseaux ont beaucoup attendri à l'époque.
Mais comme toujours, c'est l'image, les Shetland, c'est pareil. C'est l'oiseau, on montre l'oiseau. Mais pour nous, l'oiseau, c'est un symbole de quelque chose, d'un système. Et le système, il va de la bactérie à la baleine. Et dans lequel, au milieu, il se trouve qu'il y a le bonhomme qui exploite. Alors bon, il faut aussi faire des choix. Mais dans ce que l'on avait choisi comme tactique à l'époque, c'était déjà d'évaluer dès le premier jour.
C'est une véritable stratégie scientifique de votre part?
Ah oui, stratégie.
Vous n'avez pas répondu à mes questions sur le tonnage quand même des animaux
alors,
morts relevés.
Ce que l'on a fait avec 600 étudiants travaillant à la journée, c'était estimer les mortalités des premiers 8 jours. Et pour ça, il ne fallait surtout pas attendre des décisions de ministère qui nous auraient autorisé à commencer un travail, ce que l'on a fait ensuite, mais on a commencé le véritable... suivi scientifique, on a mis un an à faire ça. Tandis que là, nous avions les états de mortalité des premiers jours.
Hein. Mais vous voulez dire que si vous aviez attendu finalement les ordres et les consignes, les directives de Paris et des différents ministères, vous n'auriez rien fait, c'est ça?
Ah si, on aurait fait le suivi que l'on a fait après, mais il a fallu du temps, il a fallu taper sur la table, il a fallu faire un film avec René Vautier, Marée Noire et Colère Rouge, ça, on a oublié un petit peu ce film.
Non,
mais...
non.
Et moi, je ne l'ai pas oublié, parce que Vautier est venu nous filmer, nous interviewer dans les labos.
C'est un cinéaste militant. Hein,
et on est devenu très militant aussi.
Alors Bernard Fichou, puisque M. Glimarek ne veut pas répondre à ma question, combien d'animaux morts relevés? Je crois que vous connaissez le chiffre.
Chance. Non, moi je connais certains chiffres relatifs au nombre d'oiseaux, par exemple, qui ont été tués, parce que j'ai lu les bilans là-dessus.
Il me semble qu'on m'a dit 260 000 tonnes.
Oui.
D'animaux morts, c'est ça?
C'est ça. Mais bon, un impact écologique, ce n'est pas la nécrophagie que l'on évoque. La nécrophagie, les 230 000 tonnes, c'est simplement une image de ce que l'on fait, le trou que l'on fait dans le système. Et la perte des premiers jours, plus ensuite une mortalité pendant un mois. Mais ça, on souhaitait le faire, parce qu'on avait fait, on avait fait une ou deux marées noires avant, on voulait chiffrer ces mortalités pour savoir où avaient lieu les mortalités, parce que Bernard l'a bien décrit aussi, cette mortalité n'est pas continue le long du littoral, et très vite, on s'aperçoit qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés les uns que les autres. Puis après, ce pétrole qui est rentré dans les abers, bon, c'est là que vont être les véritables problèmes.
Ben non, j'ai rien à rajouter. Il a dit le chiffre que vous demandiez, 260 000 tonnes. Là-dedans, puisque vous parliez des oiseaux, d'après les chiffres que je connais, il y avait une estimation de mortalité entre 19 et 30 000 oiseaux tués. Je ne sais pas combien de tonnes ça fait,
mais
ça rentre dans la globalité des choses.
Yves Gladue, quelles sont les photos que vous avez pu faire à l'époque qui se sont le mieux vendues? Qu'est-ce qui a intéressé surtout la presse à l'époque?
C'était les images de l'extérieur. D'abord, ce bulbe dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était gigantesque et qui impressionnait beaucoup. Et puis des témoignages un petit peu de ce qui s'était passé au fond réellement au moment de l'accident. C'est-à-dire que j'ai photographié dans la cale arrière tout le système et l'appareillage du gouvernail qui était à l'origine du naufrage. Donc c'était toutes les pièces qui étaient en panne. J'avais même été mandaté par le juge d'instruction de l'époque qui était à Brest, qui s'appelait le juge Gouillette, et qui m'avait autorisé à plonger dans cette épave, justement pour y faire quelques photos témoignant un petit peu de ce qui s'était passé.
Féad, vous êtes patron de pêche à Clédaire, dans le Finistère. Le jour de la marée noire, où est-ce que vous étiez et qui vous a prévenu de cette catastrophe?
Alors, le jour de la marée noire, j'étais donc chez moi. Il était 6 heures du matin à peu près. Je me levais juste avant les informations de 6 heures sur France Inter, puisque c'est France Inter qui m'a pris la nouvelle. J'allumais ma radio comme d'habitude lorsque je me lève. Avant de prendre mon petit déjeuner, le temps de faire chauffer mon... Et ça a été la première information, et ça je me souviens très bien, c'est la première information que j'ai reçue.
François Foucault.
L'échouement de la Mococadis sur les roches de Port-Sal.
Émotion et colère en Italie après l'enlèvement d'Aldo Moro et l'assassinat de ses 5 gardes du corps. Menace de marée noire en Bretagne, un super pétrolier échoué avec 220 000 tonnes de brut. Les Israéliens consolident leur position au sud Liban, mais les combats continuent. Scrutin très ouvert à 48 heures.
J'ai bu, je crois, mon café. Je me souviens plus très bien, mais j'ai dû boire mon café à toute vitesse. Et j'ai bondi chez mon frère, qui habitait à cette époque-là à 5 km de chez nous. Lui n'était pas au courant. On venait d'acheter un bateau, ça faisait un an à peu près qu'on avait notre bateau. J'ai bondi chez lui, je lui ai dit, écoute, il y a une catastrophe, il y a un pétrolier qui s'est échoué à Port-Sal. On a vite regardé un peu une petite carte, on connaissait bien le coin, mais voir un peu ce que ça pouvait apporter. Et puis, on a vraiment cru que c'était fini, le métier était fini. Là. C'était le coup de barre, là, c'est le coup de massue. On a vraiment eu l'impression que c'était foutu, c'était fini. Bon, là-dessus, on a de nouveau allumé la radio. écouter les informations, écouter les commentaires. Mais dès qu'il a fait jour, dès qu'on a pu, on a pris la voiture et on est allé à Port-Salle au lieu d'aller en mer.
Et là, vous, qu'est-ce que vous avez vu?
Ben, à Port-Salle, on a vu le mazout déferler sur la plage, le bateau échoué effectivement, la foule déjà sur la dune, ce qu'on a vu, et on s'est après dirigé vers Port-Salle. On est allé à Port-Salle où il y avait déjà une réunion d'organiser avec les différents responsables locaux de la pêche qui étaient là.
Votre femme a l'air d'insister sur l'odeur aussi, c'est ça qui se...
Non, moi j'avais la nausée.
Oui,
j'avais vraiment la nausée de ce qui se passait, de voir une côte aussi belle, souillée de cette façon-là. L'odeur en plus, effectivement, mais vraiment la nausée du sable, des rochers, de la mer qui est si belle ici, si je dirais si propre. Vraiment, nous, on arrivait du midi où l'on connaissait déjà les problèmes de pollution et c'était un sentiment de nausée profond que j'ai ressenti.
Monsieur Féat, votre première réaction, ça a été de sauver votre bateau, ça a été d'aider à nettoyer, ça a été d'agir très vite
Difficile à dire. La première réaction, premier réflexe, a été d'aller voir, dès qu'il a fait jour, d'aller voir à Port-Salle ce qui s'était passé, de se regrouper, de prendre contact avec les autres pêcheurs, de se grouper. Je me souviens être intervenu au cours de la grande réunion. On était dans un cinéma ou dans une grande salle. On était très nombreux, très très nombreux. La salle était archi pleine. Je me souviens avoir être intervenu. Je me souviens plus ce que j'ai dit à ce moment-là. Et puis après, le soir, l'après-midi, on est rentré à la maison, écœuré, dégoûté, angoissé. Et là, je me souviens plus exactement dans quel état on était, mais je veux dire, c'était pas brillant, quoi. Je pense pas.
Pierre Féat, vous vous souvenez du grand élan de solidarité qu'il y a eu dans les jours qui ont suivi la MOCO? À la fois tous les Bretons qui sont descendus sur les plages, tous les Français qui finalement se sont sentis concernés, ou est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été abandonné à ce moment-là? Qu'est-ce qui domine? Il y avait du monde sur les plages.
Il y avait du monde sur les plages. Il y avait tous les militaires que le gouvernement avait effectivement envoyés. Il y avait toutes les entreprises locales qui avaient fourni des camions, des paysans qui fournissaient des tracteurs. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'habitants, beaucoup de côtiers, beaucoup d'habitants de la côte qui participaient vraiment. Je pense que ça a été... On s'est occupé de notre matériel, on s'est occupé de notre vie, on s'est occupé de récupérer notre matériel dès qu'on a pu le récupérer.
Je pense qu'effectivement, on était déjà très choqués par ce qui se passait. Et c'est surtout le fait de la date de la marée noire. Parce que le 16 mars, moi je m'en souviens très bien, d'autant que ce sont nos 10 ans de mariage. C'était un joli... c'était pas nos 10 ans de mariage, pardon. C'était 8 ans de mariage, oui, c'est ça. Enfin, c'était notre anniversaire de mariage. Et c'est un fait que c'était la marée noire arrivait juste après l'hiver. C'est-à-dire à un moment pour la pêche côtière... qui est un renouveau, où enfin on peut aller en mer, où les araignées arrivent, les araignées venaient d'arriver. On était en plein début à nouveau de pêche, de production, et pour nous c'était un moment extrêmement important. Voilà. Et je crois que le gros problème, c'était l'interdiction d'aller en mer, c'était le problème de savoir mais quand est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer de l'argent à nouveau, parce qu'on venait nous d'investir effectivement, enfin depuis 2 ans, et on venait d'avoir un troisième enfant, enfin bon, il y avait différentes choses. Et c'est vrai que pour nous, je veux dire, c'était très important, on avait besoin de gagner notre vie. Or, les assurances que l'on pouvait nous donner, des 1244 francs par quinzaine, du gouvernement, c'était dérisoire par rapport aux traites que l'on avait à rembourser, par rapport au matériel que l'on avait besoin de faire tourner, par rapport à une activité qui était très importante de reprendre, parce que du mois de mars, justement, au mois de septembre, octobre, pour la pêche côtière, c'est fondamental.
Alors, voilà. Vous avez vécu cette période à la fois comme une sorte de chômage technique, c'est ça ? Et vous le disiez comme une agression insupportable par rapport à ce pays que vous aimez, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Sur tous les plans, c'était vraiment difficile à vivre. Et c'est vrai que l'élan de solidarité, c'est un fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour nettoyer les plages, etc. Je dirais que nous, ça nous paraissait un petit peu dérisoire, tout ça. Parce que finalement, la grosse préoccupation des gens, c'était est-ce que les plages vont être propres pour les touristes ?
Oui, c'était
révoltait. Je vous assure que c'était révoltant. Et pour nous, ça nous paraissait vraiment tellement peu de choses par rapport aux conséquences directes sur notre vie, je veux dire, et non pas sur les vacances que de toutes les manières on ne prenait pas, mais sur notre vie, c'était fondamental.
C'était le point de vue d'un couple de pêcheurs. Enfin, elle a longtemps été poissonnière, marchande de poissons à Morlaix. Aujourd'hui, pour des raisons personnelles et de santé, elle a arrêté. Le couple s'appelle Pierre et Bénédicte Féat et ils habitent Cléder. Michel Glemarec, quelle assistance finalement scientifique vous avez pu apporter comme ça très vite ? Quel secours vous avez pu apporter aux professionnels de la mer, que ce soit les pêcheurs, les ostréiculteurs que nous avons entendus dans ces émissions, également les professionnels du tourisme ? Quelle a été votre contribution quand même à...
Ah, assistance, rien du tout, mais simplement prise de conscience pour tout le monde, pour toutes les catégories sociales travaillant de la mer, que l'on était devant un événement qui n'allait pas être réglé enfin en 8 jours et que l'on était devant une épreuve qui allait durer. Et la seule donnée que l'on avait réellement, c'est un grand scientifique américain qui m'avait transmis l'information, qui m'avait dit attention, vous en avez surtout pour plus de 2 ans, mais nous, nos fonds pour les suivis n'ont été que de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, vous n'aurez rien compris, donc battez-vous pour en savoir plus. Et on s'est battu effectivement et on a eu réellement pour la première fois, à force de nous battre, des suivis qui ont duré pendant plus de 6 ans. C'est-à-dire que vis-à-vis de la profession et des marins pêcheurs, et au niveau des cycles, là, vous évoquiez les dormeurs tout à l'heure, bon, ben, c'est clair qu'il fallait effectivement beaucoup plus d'années pour bien montrer là où était touchée telle ou telle espèce et que ça allait durer tant d'années.
Alors, vous avez pensé très vite, d'ailleurs, avec Bernard Fichot le dit aujourd'hui, vous avez pensé, vous les scientifiques, vous êtes un peu trompés, vous avez pensé que ça allait que les nuisances, finalement, que l'impact de la pollution allait durer beaucoup plus longtemps qu'il n'a pu durer.
Oui, parce que ce côté émotionnel nous a effectivement amené à exagérer les choses, mais il fallait le faire puisque rien ne se décidait de Paris. On était fin juin, on n'avait toujours pas le premier centime, le premier accord qu'il y ait un suivi écologique à faire et à financer. Et c'était quand même très dur. Il a fallu se retrouver à recommencer la bagarre en septembre, octobre, pour vraiment... Bon. Il a fallu que l'on exagère, et c'est vrai, on a exagéré, mais on ne pouvait pas faire autrement parce que rien ne bougeait.
Alors, combien de temps faut-il pour reconstruire un écosystème qui a été détruit comme il a été détruit par une marée noire ?
Eh bien, nous n'avons pas pu, au bout de 10 ans, c'est vraiment l'échelle de 10 ans sur laquelle on a travaillé, qui nous permet de dire qu'au bout de 10 ans, il est très difficile de reconnaître ce qui est l'action d'un impact ponctuel, d'un impact chronique qui est la lente dérive des systèmes qui perdent tous les ans un petit peu en qualité. Mais donc, au bout de 10 ans, il est très difficile de séparer les choses.
Alors, question pour conclure, d'ailleurs, que je vous pose à vous trois. Vous l'avez entendu dans la mémoire et dans le cœur, et aussi, j'allais dire, du côté du porte-monnaie d'un certain nombre de gens qui habitent cette partie du Finistère. Eh bien, les plaies ne sont pas tout à fait pansées. Bernard Fichot, dans la nature, est-ce qu'il y a aujourd'hui des traces visibles de la marée noire ?
Il y a des traces dans certains secteurs, il n'y en a pas à ma connaissance, par exemple à Port-Salut, ou très très peu. Mais si on prend l'ensemble de la côte bretonne, que j'ai sillonné dans tous les sens et plusieurs années de rang, Je pense qu'à l'heure actuelle, si on essorait tout le pétrole qu'il y a dans les plages, enfin le pétrole de la Moco qui reste sur l'ensemble de la côte bretonne, on n'arriverait pas à remplir une chaudière à mazout pour chauffer une maison pendant plus d'une semaine. Il reste, à mon avis, quelques dizaines de litres de pétrole dans les plages bretonnes, dans certains coins très protégés.
Alors vous pensez qu'il en reste davantage dans les têtes aujourd'hui ?
J'ai du mal à le dire parce que dans ma tête, à moi, il en reste plein puisque ça, j'ai travaillé là-dessus pendant des années.
Oui, c'est ça, il en reste plus dans les têtes que dans le paysage.
Ah ouais, dans les têtes, il en reste plus, ouais. On en parle plus que les poissons n'en parlent certainement. Ils ont d'autres sujets de préoccupation à l'heure actuelle.
Yves Gladuc, que reste-t-il de la marée noire ?
La marée noire, autour de l'épave, en fait, l'année qui a suivi, on n'avait plus aucune trace parce que la mer, l'action mécanique de la mer autour de l'épave avait été très très forte. Ce qui reste, je pense, c'est aujourd'hui, c'est surtout dans les coins très protégés comme les Abers. Et encore, oui, l'épave, elle se dégrade par contre très très vite. Et bon, on arrive à la fin du procès et je trouve que la mer a été plus rapide que la justice pour régler ce problème.
Et le jour où la Moco a sombré définitivement, je veux dire, il vous a manqué ? Est-ce qu'il faisait partie du paysage ?
Oui, il y a eu une période, en fait, pendant laquelle je l'ai fréquenté pour faire des films, environ 5 ans après le naufrage, où l'épave était assez belle. Je dois dire qu'au début, elle était inquiétante, et après, elle était devenue un petit peu magique, belle. Mais maintenant, elle s'est complètement écroulée, et elle a perdu vraiment tout intérêt.
Michel Guilmarec, que reste-t-il de la marée noire ?
Il reste des travaux.
Des dossiers dans votre bureau, j'imagine.
Je dirais plus que ça, c'est l'ensemble de la communauté scientifique locale et internationale aussi, et là, un ensemble de travaux scientifiques qui font aujourd'hui référence. Et donc, pour moi, personnellement, à chaque fois que je peux parler d'autre chose, quand même, la Moco, ça nous colle un peu à la peau, parce qu'on a cette étiquette, effectivement, et l'affaire...
Vous êtes devenu hyper spécialiste, d'ailleurs.
Pas seulement ici.
Des pollutions maritimes. On n'a pas le temps d'en parler, mais Bernard Fichot disait qu'il avait été défendre les Indiens des côtes de l'Alaska.
Et là, sur la Corogne, sur Shetland, on n'a jamais fait autant d'interviews.
Vous êtes envahi par les télévisions du monde entier.
Pas seulement nous, enfin, disons, le milieu professionnel de nettoyage et le cèdre, enfin, on a tout autour de cette Bretagne et de Port-Sal, un ensemble, disons, de compétences, je crois, qui fait preuve aujourd'hui de ce qu'on a pu faire à l'époque, et c'était du bon boulot qu'on a fait.
Mais pour vous, la page de la Moco est tournée ?
Pas réellement.
Pareil.
Pas réellement, ça reste quelque chose de très très fort.
Je désannonce. Autant pour moi. Merci à tous de votre participation à l'évocation de ces jours sombres pour la Bretagne. C'était il y a juste 15 ans, la Moco Cadis, avec pour la première fois, grâce à Yves Gladue, donc les plaintes de la Moco enregistrées au fond des mers. Demain, la Moco numéro 2, le feuilleton juridique contre l'Amérique ou avec l'Amérique et l'entêtement des Bretons qui ont à leur façon fait plier l'Amérique. Équipe de réalisation à Ploudal-Mézeau-Port-Sal, on dit Ploudal d'ailleurs ici, Guy de la Ville-Marquet, Gilbert Arnold, Jean-Pierre Gors et Marie-Ange Garandeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 février 1993.